presque juif. Un podcast d'Academ par Ruben Honigman.
Je ne me suis jamais tellement intéressé à l'antisémitisme. Si des gens n'aiment pas les juifs, tant pis pour eux, c'est leur problème. En revanche, ce qui m'intrigue, ce sont les autres. Ceux que le fait juif arrête, qui y trouvent quelque chose qui leur parle, les émeut et les bouleverse. Je vais à la rencontre de ce que j'appelle des compagnons de route du peuple juif. Ils n'ont pas d'ascendance juive, ne cherchent pas à se convertir au judaïsme et ne sont pas non plus ce qu'on appelle communément des philosémites. Ils se tiennent sur le seuil sans jamais le franchir. Avec pudeur et dignité, sans curiosité mal placée, ils cheminent aux côtés des juifs et les épaules. Ensemble, nous essayons de refaire leur chemin à l'envers. Évoquer une rencontre, une lecture, un appel, démêler les méandres de leur trajectoire à laquelle rien, en apparence, ne les prédisposait. J'interroge ce choix de vie qui est le leur, toujours resté sur la ligne de crête entre monde juif et non-juif, animé par l'intuition que s'il existe un mystère juif, c'est peut-être par la marge qu'il convient de le sonder.
Aujourd'hui, nous sommes reçus par Laure Adler.
Je m'appelle Laure, je suis mère, grand-mère, amoureuse de Marguerite Duras. Marguerite Duras qui passait son temps à regretter de ne pas être juive et qui a tout fait pour le devenir, mais qui s'est heurtée à cette impossibilité de ne pas être juive. Alors elle a trouvé la solution, elle a inventé des noms juifs, Abans, Abana David, Lolvestein, etc., etc. Voilà, et donc c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles je suis toujours amoureuse de Marguerite Duras, c'est parce que je ne suis pas juive et je le regrette.
Bonjour Laure Adler.
Bonjour.
En préparant cette émission, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui vous croient juive.
Vous avez remarqué? C'est très bien. Qui oui. Continuent à le croire.
Ça vous flatte?
Non, ça ne me flatte pas, mais étant donné que j'ai été prise pour quelqu'un d'origine juive dès que j'ai commencé mon métier et que j'ai subi l'antisémitisme, je me sens plus juive que non juive. Même si je n'ai pas le droit d'être juive.
Pourquoi vous n'avez pas le droit d'être juive?
Parce que j'ai aucune origine juive qui me permette de revendiquer ce statut, cette origine, cette culture, cette appétence, ce rapport au monde.
Vous le qualifieriez comment, ce rapport au monde?
Fondé sur l'appétit de connaissance, sur la recherche, sur le questionnement, sur l'infini. Sur l'inexpiable, sur l'impardonnable, quelque chose qui, par définition, échappe.
Ça, c'est commun à tous les êtres humains, finalement.
Non, je crois que les personnes qui ont été élevées dans des préceptes juifs sont plus désireux d'élucider par la connaissance des questions existentielles. Et philosophique.
Vous dites que vous ne pouvez pas devenir juive à cause de ses origines. Cela dit, on peut se convertir au judaïsme, en fait. C'est une idée qui vous a traversé l'esprit à un moment donné.
Oui, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit, que j'ai essayé d'expérimenter. J'en ai parlé à Delphine Horviller, qui ne m'a pas découragée, mais enfin qui m'a expliqué que c'était très long et très compliqué. Donc, peut-être que je le ferai un jour, mais ça, c'était il y a une dizaine d'années. Je n'ai pas franchi le cap.
Vous avez fait des choses autrement plus compliquées dans votre vie.
Oui, mais enfin là, j'ai l'impression quand même que c'est très, très, très compliqué.
Et en même temps, vous savez que ça fait partie du discours obligatoire, même du rabbin, de dissuader le candidat à la conversion.
Ah non, je l'apprends par vous.
Ah bah voilà.
Bon, alors je vais peut-être retenter.
C'est fait un peu pour tester la volonté du candidat.
Ça a marché, vous voyez.
Et voilà. Donc on se dit, si vraiment le candidat a envie, il reviendra. Alors vous, ce ne sont pas vos origines, en fait. C'est simplement le nom que vous portez, parce que vous avez été marié à un homme qui s'appelle Adler. On va y revenir tout à l'heure hein, sur la rencontre avec Fred Adler. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de garder ce nom ?
Parce que je considère que c'est le mien, que je me le suis approprié, que je l'ai choisi, que d'autre part, c'est le nom de mon fils aîné, donc c'est aussi le mien. Et je ne me revoyais pas partir à la case départ de la non-juive. Enfin, de la non-juive, de quelqu'un qui ne portait pas ce nom dont j'étais très fière et que j'entendais continuer à garder.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le milieu dans lequel vous avez grandi ?
J'ai grandi dans un milieu assez déchiré socialement parce que mon père était d'origine paysanne. Son père lui-même était un paysan assez pauvre. Quand je dis assez pauvre, c'était vraiment une ferme avec trois vaches, quelques poules, un cochon, etc. Et j'ai vécu en Auvergne tous les étés de mon enfance et de mon adolescence parce que mes parents habitaient en Afrique. Ils n'avaient pas forcément l'argent pour venir tous les étés en France, mais ils envoyaient leurs filles en France. Donc, j'ai beaucoup passé de temps, beaucoup d'étés chez mes grands-parents paternels. Et mon père était un boursier qui, de par la qualité de ses études, a réussi à passer des concours. Il voulait pas tout à fait se couper de ses propres origines familiales puisqu'il a choisi d'être ingénieur agronome. Il est devenu ingénieur agronome et à l'époque où il l'est devenu, il a été approché par une société qui n'existe plus, qui s'appelait la Société des Potasses d'Alsace. Et qui lui a proposé de partir en Afrique. Et à ce moment-là, il était tombé amoureux quelques semaines auparavant d'une femme avec qui il avait commencé à travailler. Et il lui a proposé de partir en Afrique et ils sont partis tous les deux. Donc si je dis que mon milieu familial est un peu déchiré, c'est-à-dire que du côté de mon père, c'est un milieu très modeste, qui n'est pas vraiment éduqué socialement, alors que du côté de ma mère, on vient d'un milieu social très percuté par une ancienne richesse perdue. C'est-à-dire que le père de ma mère était un propriétaire des grandes usines de laine du nord de la France et qu'il s'est trouvé assez jeune perclus de dettes parce qu'il était joueur au casino et joueur de chevaux aussi. Mais il y a toujours eu ce rêve perdu. Ma mère n'a jamais été à l'école publique. Il y a toujours eu des précepteurs chez elle. Il y a toujours eu cette espèce d'idée en arrière-fond qu'elle venait d'une origine sociale très différente de celle de mon père. Et ça se sentait dans la vie quotidienne quand on était enfant et adolescent. Qu'ils n'étaient pas de la même origine sociale. Et quelquefois, ma mère faisait des admonestations à mon père en disant « on ne sauce pas avec le pain dans l'assiette, on prend une fourchette pour éplucher une pomme. »
Il y avait ce hiatus.
Voilà, qui moi, m'a toujours beaucoup gênée.
Ça, c'est pour la dimension sociale. Au niveau religieux, c'était un milieu de culture catholique traditionnelle ?
Oui, j'ai été baptisée comme mes deux autres sœurs. Ma mère était croyante. Ma grand-mère maternelle était très croyante. Et elle a beaucoup habité avec sa propre fille. Donc, j'ai beaucoup aussi vu ma mère et ma grand-mère ensemble. Ma mère nous faisait prononcer la prière avant de passer à table. Et d'autre part, elle nous faisait réciter la prière avant de nous endormir. Donc c'est quand même une éducation extrêmement prégnante. J'ai passé ma première communion, mes parents allaient à la messe tous les dimanches, ma mère m'a inscrite à l'école, enfin, au cours d'école religieuse, j'ai été élevée en Afrique dans la première école où j'étais dans une école catholique par des religieuses, enfin, ça a été très prégnant, oui.
Et ça vous interpellait, ça vous parlait, tout ça?
Oh ben, comme toutes les pré-adolescentes, J'ai voulu être bonne sœur dans une définition de la bonne sœur missionnaire au fin fond de l'Afrique pour m'occuper des enfants, etc. Mais ça m'est vite passé. Mais je l'ai eu, cette crise-là, oui.
Pourquoi ça vous est passé ?
Je sais pas. Parce que je pense que ça vient aussi vite que ça part. Enfin, il y a des femmes qui vont jusqu'au bout.
Mais en tout cas, le message religieux, la lecture des textes religieux, c'était quelque chose qui était présent à la maison.
Bah, c'était le Nouveau Testament, hein, et c'était ce qu'on énonçait au cours de la messe. Ça n'a jamais été l'Ancien Testament.
À quel moment, justement, le fait juif a fait irruption dans votre vie ?
Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Je sais que j'ai été désignée comme juive très vite, parce que j'ai commencé le journalisme très jeune, et que j'ai reçu tout de suite des lettres antisémites. Je m'appelais déjà Adler. Et là, ça a commencé tout de suite.
Ah oui.
Donc,
vous receviez des courriers antisémites.
Des courriers antisémites, nombreux et très violents.
Donc c'est presque par l'antisémitisme que vous êtes devenu
juif. Oui, on peut rejoindre Jean-Paul Sartre, oui.
C'était une judaïté en creux, quoi.
Oui. Et ça m'a tellement choquée. Et ensuite, il y a eu un autre stade, c'est que... un patron de presse d'extrême droite qui avait été invité par le producteur de l'émission à laquelle je travaillais a été plus loin, c'est-à-dire qu'il a demandé ma peau. Parce que soi-disant, j'avais été révérencieuse à son égard. Or, en fait, je lui avais posé une question justement sur l'antisémitisme, des propos pour le moins ambigus qu'il y avait dans son dernier éditorial. Ce monsieur dirigeait le Figaro magazine à l'époque et il avait été stupéfait. J'avais bien vu qu'il était stupéfait que je lui pose des questions de ce genre. Je devais avoir 22 ans. Enfin, ces questions-là me paraissaient tellement évidentes que je n'avais pas l'impression de faire la maline en les lui posant, mais de faire très modestement mon métier. Et 3 heures après, le directeur de France Culture m'a convoqué dans son bureau en me disant « Je ne vous connais pas, j'aimerais bien vous connaître parce que il y a un patron de presse qui demande « Est-ce que vous partiez de la chaîne ?» etc., etc.
Parce que supposément juive.
Enfin, en tout cas, je lui avais posé une question sur des propos ambigus qui, pour moi, ne l'étaient pas et étaient des propos antisémites.
Mais à aucun moment donné, ça vous a traversé l'esprit non plus de démentir cette judéité qu'on vous prêtait ?
Jamais !
Ouais.
Alors là, ça a été au contraire une armure... Ça a été une protection, ça a été un honneur. En tout cas, il n'était pas question de dire que je n'étais pas juive.
Alors, si vous vous appeliez déjà Adler à ce moment-là, c'est parce que vous aviez rencontré celui que vous avez épousé en première noce, Monsieur Alfred Adler, que vous aviez rencontré au kibboutz en Israël. Alors, pourquoi est-ce que vous vous êtes retrouvé au kibboutz ?
Parce que je l'ai voulu, parce que mes parents m'avaient toujours dit... On t'enverra aux États-Unis une fois que tu auras ton bac, comme si c'était l'Eldorado. Et moi, à l'époque, les États-Unis, ça ne me faisait pas tellement rêver. J'aurais bien voulu aller aux États-Unis, mais je n'avais qu'une idée en tête, c'est aller en Israël pour aller vivre dans un kibboutz. Et mes parents ne voulaient pas donner l'argent pour que j'aille dans un kibboutz. Ils voulaient que j'aille aux États-Unis et que je fasse un voyage aux États-Unis. Et du coup, bah, j'ai pas été aux États-Unis et j'ai payé moi-même, en étant serveuse dans un restaurant, mon voyage dans un kibboutz. À l'époque, c'était la queue de comète de 68 où j'avais été engagée. C'était l'idéal révolutionnaire, c'était le changement de société, c'était l'idée de communauté. Et les kibboutz, pour moi, c'était quelque chose vraiment à expérimenter, peut-être pour y vivre.
Ah oui.
Donc, je me voyais très bien aller passer du temps dans un kibboutz pour travailler, et après, on verrait.
Et vous êtes resté combien de temps au kibboutz ?
Oh, 2 mois, 2 mois et demi.
Vous vous souvenez quel kibboutz c'était ?
Le kibboutz Iron, je ne sais pas s'il existe encore. Il était où ? À la frontière libanaise.
Ah, dans le nord ?
Ouais, dans le nord.
Et vous avez appris un peu d'hébreu à cette occasion ?
Ouais, surtout Afsaka.
Oui, la pause ?
Ouais, ça
pourquoi
c'était... Bah parce qu'on travaillait dur dans les champs et surtout dans les champs de pommiers. On passait de 6 heures du matin jusqu'à, je ne sais plus, 16 heures, je crois. On attendait ardemment les moments de pause, donc c'est vraiment le premier mot que j'ai appris, c'est Hapsaka.
Et donc vous avez des rudiments d'hébreu ?
Ouais, un petit peu. Hein.
Vous avez essayé d'entretenir ça un peu après ou...
Non, pas vraiment. J'aimerais bien connaître l'hébreu parce que je trouve que c'est une langue très belle. Mais ma fille, Léa, a essayé et a continué un certain temps à apprendre l'hébreu, mais je crois que c'est très, très difficile.
Au cours de ce séjour au kibboutz, vous avez donc rencontré Alfred Adler.
C'était mon chef.
Ah.
Il était là pour encadrer les jeunes étudiants qui arrivaient, justement vérifier qu'ils étaient à l'heure dans les vergers le matin et qu'ils puissent travailler correctement, etc.
Lui-même, c'était quel type de juif, Alfred Adler ?
Ah ben, l'histoire est très complexe, puisque mon premier mari, donc le père de mon fils Guillaume, a une histoire terrible, puisque il est né en France, lui et, je crois, deux de ses frères. Son père venait de Hongrie, s'était réfugié en France avec sa femme et ses enfants à cause de l'antisémitisme. Et le père de Fred a été arrêté par la police française dans le 18e arrondissement, rue Ordener, rue d'ailleurs qui a donné le titre d'un très beau livre de Sarah Kaufman, qui habitait dans le même immeuble que les parents de mon premier mari. Et sa femme, donc la mère de mon premier mari, la mère de Fred, n'a pas voulu suivre les indications, les supplications de son fils aîné, qui déjà était dans la résistance à l'âge de 16 ans, et qui lui a dit de venir se cacher en quittant Paris. Elle a dit « mon mari va revenir, la police française, j'y crois, et si jamais il revient, comment va-t-il me retrouver si je quitte le domicile où nous vivons ?» Et sa fille Rose n'a pas voulu quitter sa mère, et le frère aîné a réussi à obtenir l'autorisation de sa mère pour prendre les petits enfants. Ils étaient trois, et deux d'entre eux sont partis à la maison d'Isieux, chez Sabine Zlatin et Monsieur Zlatin. Et ils ont été sauvés par l'éducation qu'ils ont reçue, éducation religieuse. La mère avait dit qu'une chose quand elle a laissé partir les petits avec le fils aîné, elle leur a dit « Vous ne vous inclinez jamais devant un crucifix. » Et donc, les deux frères Adler, au moment de la fin de la journée, parce qu'il y avait une ferme juste à côté, tenue par des gens qui avaient commencé à faire des dénonciations sur les petits-enfants qui arrivaient dans cette maison et qui devaient peut-être être juifs, monsieur et madame Zlatin demandaient à tous les enfants, dans le premier étage, au fond du couloir, elle avait posé un crucifix, elle leur demandait de faire de fausses prières. Et les deux petits hurlaient en disant « Notre mère nous a interdit de faire les prières ». Et donc le frère aîné a été averti par les réseaux de résistance qu'il y avait deux gamins là qui mettaient la pagaille à l'intérieur des enfants et qu'il fallait venir aller les chercher. Et il est venu les chercher quelques jours avant qu'ils ne soient arrêtés. Comme quoi, ils doivent leur vie à leur mère et à leur éducation religieuse.
Ça, c'est donc le récit familial de votre premier mari. Est-ce que c'est à travers ce récit que vous avez, pour la première fois dans votre vie, pris la mesure de ce qu'est la Shoah ?
Ça a été très compliqué parce que mon mari en parlait très peu. Il était très silencieux, comme beaucoup de gens. Il avait été ensuite élevé à la fin de la guerre par des organisations juives, comme l'OSE. Et il disait que son identité, il se l'était acquise au fil du temps. Je ne veux pas parler à sa place, mais que lui-même avait construit sa personnalité, etc., etc. Et que cette personnalité, certes, il savait que la Shoah existait, mais il est comme tous ses enfants qui ont attendu le retour de leurs parents et le retour de leurs sœurs. Et tout ça était resté dans un silence très douloureux. Et certains ont décidé que le silence était plus protecteur que l'élucidation ou l'énonciation, etc. Et donc, il était très silencieux.
Mmh. Et comment est-ce que vous avez vous-même pris connaissance de tout ça?
En lui posant des questions très nombreuses. Il m'a emmené à la maison d'Izieux. Il m'a fait rencontrer les parents, enfin les paysans parents qu'il avait sauvé dans la ferme de Savoie où il était avant d'aller à la maison d'Izieux, qui d'ailleurs ont découvert qu'il était juif. Ils n'ont jamais su que Fred était juif. Il avait été placé là comme un petit enfant, et c'est le petit enfant que les paysans ont recueilli. Donc il m'avait quand même donné quelques éléments. Et puis il y avait un autre frère qui parlait un peu plus, donc j'ai beaucoup écouté l'autre frère. Et je voulais qu'il parle aussi à notre fils, Guillaume. Et il ne parlait pas, il savait beaucoup de choses que mon propre mari ne me disait pas. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que mon fils Guillaume, à l'âge de 5-6 ans, à l'époque on habitait dans le 10e arrondissement rue de l'Échiquier, il y a le marché qui existe toujours là au bout de la rue. Et un matin, dimanche matin, je suis allée faire le marché avec lui et il y avait une reconstitution d'un film de la Seconde Guerre mondiale avec des nazis et des soldats américains. Et il a commencé à hurler. Hurler, en montrant les nazis. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il était dans un état absolument épouvantable. Mmh. Comme s'il savait, alors qu'on ne lui avait rien dit. Et c'était très impressionnant, parce qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour qu'il puisse calmer ses sanglots, calmer sa peur, calmer son tourment.
Donc c'était passé d'une manière ou d'une autre, entre les lignes.
Et quelques temps après, peut-être 2 ans plus tard, il devait avoir 7 ans, on revenait de vacances, il était allongé dans la voiture derrière, et je me retourne pour voir s'il dormait, et il pleurait. Et je lui dis, pourquoi tu pleures? Des grands sanglots. Et il me dit, parce que ma tante est morte. Et je ne savais même pas qu'il savait qu'il avait une tante. Et donc, quelque chose était passé, allez savoir pourquoi et comment. Et quand il aura l'âge adulte, il va demander à son père, mais je ne veux pas parler à sa place non plus, je ne veux pas parler à la place du père ni du fils, mais en tout cas, il va demander à son père d'aller à Auschwitz. Son père, en tout cas, ne va pas répondre. Mais par contre, un des frères de son père va répondre et il va faire plusieurs voyages à Auschwitz et il va écrire un livre qui s'appelle Pitchy Poy et qui est, je pense, la reconquête de son histoire familiale et la continuité, finalement, de ce silence qu'on peut comprendre, mais que lui a brisé en faisant acte d'écriture. Il a voulu aller au pays de ses grands-parents et de sa tante.
Donc, et à travers votre premier mari, et à travers votre fils, finalement, vous avez été rattaché à l'histoire de ce peuple.
Complètement.
Est-ce que vous voulez dire un mot sur Poliakov ou Jean Kélévitch ou Jean-Paul Aron, ces rencontres qui ont été peut-être décisives dans votre rapport aux faits juifs?
Alors, il se trouve que moi, comme l'histoire juive m'intéressait beaucoup, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui était très proche de mon mari, qui était un grand intellectuel, qui s'appelait Kurt Niedermeyer, et qui avait fondé le Centre de documentation Israël-Moyen-Orient. Et à l'époque, je faisais des études de philosophie, de droit aussi, à la Sorbonne et au Panthéon pour le droit. Mais j'étais très intéressée aussi par l'histoire juive et j'ai passé un certificat de documentaliste pour pouvoir entrer au CDIM, ce que m'a proposé Kurt Niedermeyer. À l'époque, il était sur les grands boulevards, juste à côté là, du Grand Rex. Et c'était un centre de documentation unique en France où il y avait aussi bien les journaux arabes que les journaux israéliens, des informations venues du monde entier et où les chercheurs de toutes origines venaient travailler. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, ça a duré des années dans ce centre où je découpais la presse, je classais la presse, je discutais avec les chercheurs, etc. Mais pour moi, ça a été une source de documentation aussi. Ça a été une école des savoirs. J'ai eu la chance de rencontrer des grands intellectuels. Léon Poliakov, que j'ai rencontré par l'expérience où j'étais documentaliste au CDIM. J'ai eu la chance de beaucoup travailler avec lui, de beaucoup discuter avec lui. Et ensuite, parce que j'ai parallèlement été éditrice tout au long de ma vie et j'ai travaillé beaucoup sous l'impulsion et la direction de Christian Bourgois et de Jean-Luc Pidoux-Payot aux éditions Plomb et auparavant aux éditions Payot. Et j'ai pu être l'éditrice de réédition de textes de Léon Poliakov. Pour moi, c'est un grand honneur et un grand bonheur d'avoir connu cet homme, d'avoir pu converser avec lui. Et pourtant, j'étais très jeune, mais c'était un homme tellement extraordinaire qui prenait les jeunes étudiants au sérieux et qui considérait qu'il ne perdait pas son temps en discutant avec des jeunes étudiants. Donc, il m'a beaucoup marqué par son esprit de rigueur, sa manière de réfléchir, sa manière de parler en réfléchissant ou de réfléchir en parlant, ses conversations infinies. J'ai eu comme premier directeur de thèse Jean-Paul Aron, qui a été aussi quelqu'un de très, très important. Le neveu de Raymond Aron, qui lui parlait très peu de sa judéité, mais qui quand même, à la fin de sa vie, en parlait énormément, qui m'a beaucoup, beaucoup parlé. Yankelevitch, je l'ai eu comme professeur à la Sorbonne, et aussi c'était quelqu'un qui aimait beaucoup converser avec les étudiants et qui les emmenait chez lui pour continuer les conversations philosophiques.
Comment est-ce que vous qualifiez votre rapport au peuple juif ?
Comme un rapport d'admiration. Les écrivains que j'admire sont d'origine juive et je pense que leur judéité les a fait devenir écrivains. Évidemment, il y a Franz Kafka, qui pour moi est un continent inépuisable aussi. Il y a aussi, évidemment, Hannah Arendt, chez qui l'origine juive a été problématique, questionnante, contradictoire, etc. Et qui a écrit ce livre sur cette juive qui s'est assimilée en Allemagne, qui s'appelait Rahel Varnagem. Et donc, toutes ces histoires d'assimilation, est-ce qu'on est vraiment assimilé ? On s'assimile à quoi ? Etc, etc. Tout ça m'a beaucoup, beaucoup passionné. Et puis, il y a toute l'école philosophique de tous ces gens qui ont questionné l'histoire de la Palestine. Franz Kafka devait y terminer ses jours, comme on le sait, puis il n'est jamais parti. Mais il y avait Walter Benjamin, il y avait toute cette école philosophique qui souhaitait finalement un État à deux.
Martin Buber,
toute cette frange-là d'intellectuels qui ont cru que la paix était possible et que la Palestine pourrait être un espace de mélange des cultures.
Vous disiez tout à l'heure que la judéité de ces écrivains n'était pas anodine dans leur être écrivain. Pourquoi est-ce que la judéité, ça forge l'écriture ou l'écrivain ?
Parce que je pense que le peuple juif est à l'origine de l'écriture. Et que ce lien est indissoluble et que ce lien permet de vivre. Et il permet de vivre à condition de questionner le lien au texte.
Est-ce que c'est une dimension du judaïsme auquel vous vous êtes intéressé, auquel vous vous êtes adonné aussi, l'étude des textes ?
Oui, j'étudie l'Ancien Testament. Je lis l'Ancien Testament depuis longtemps. Tous les matins, j'ai commencé il y a longtemps, je ne sais plus, il y a 17 ou 18 ans.
Et vous savez pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ?
J'ai réalisé pourquoi il y a seulement quelques semaines. En fait, c'est parce que Frédéric Boyer, qui dirigeait à l'époque les éditions Bayard, avait entrepris une vaste entreprise intellectuelle, poétique et religieuse. Il avait fait traduire l'Ancien et le Nouveau Testament par des écrivains et des poètes. Et c'est là que j'ai commencé à lire l'Ancien Testament.
Mais ça vous apporte quoi ? Cette lecture quotidienne quasiment rituelle, du coup ? Il y a une dimension religieuse un peu là-dedans. Commencer sa journée par ça.
Du ressourcement, du questionnement, de la mise en perspective, de l'apaisement, de la certitude de la finitude humaine, de la possibilité de réfléchir à certaines phrases qui vont quelquefois rester dans la tête toute la journée. Donc c'est à la fois un bagage et en même temps une interrogation.
Vous évoquiez tout à l'heure ces lettres antisémites que vous receviez. Bon, il y a un regain très fort d'antisémitisme là, depuis le 7 octobre. À quoi vous attribuez-vous cette haine contre les Juifs ?
Ben, je pense que la haine contre les Juifs est structurelle, elle n'a jamais disparu. Ils sont considérés par ceux qui sont dans le ressentiment et dans la jalousie et dans la haine comme ayant plus qu'eux, venant à la place d'eux.
C'est un fantasme, ça.
Oui, bien sûr que c'est un fantasme, mais c'est pour essayer de faire tarir quelque chose en eux qui est de l'ordre d'un éternel ressentiment, pour parler comme dans la philosophie de Nietzsche. Ils ont quelque chose qui est incomplet à l'intérieur d'eux-mêmes.
Et qui est propre à l'existence.
Qui est propre à l'existence, mais au lieu de l'analyser, c'était toutes les théories de Poliakov, etc., ils ont trouvé leur bouc émissaire. Et puis d'autre part, la religion catholique a quand même fondé une partie de légitimation du ressentiment de ces êtres. Je ne dis pas que le catholicisme est le fondement de l'antisémitisme. Je dis que dans le catholicisme, il y a des corpus qui permettent à des antisémites de légitimer leur haine du juif.
Pour synthétiser ce que vous dites, c'est comme si les juifs sont le bouc émissaire de l'insupportable incomplétude.
Oui, de l'existence humaine.
Et on place
c'est pour ça qu'il faudrait dire aux antisémites qu'ils lisent l'Ancien Testament. Ils pourraient peut-être se débarrasser de leur maladie et de leur obsession et de leur paresse intellectuelle.
Qu'est-ce qui manquerait au monde sans les Juifs ?
Tout.
Il manquerait peut-être l'incomplétude.
Oui, mais comme elle est incarnée par la judéité, on tourne en rond, ce qui est très bien.
Merci beaucoup, Laura Adler.
Presque juif, une production Académ'. Conception et présentation, Ruben Honigman. Prise de son et montage, Isaac Payon.